Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Graphite, venez nous rejoindre. Bonjour, aujourd'hui une émission un peu exceptionnelle, j'ai deux invités en ma compagnie dans nos studios pour nous parler de l'association ATTAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, une demi-heure ensemble pour comprendre les buts et les pourquoi de l'association.
Les deux soleils.
ATTAC, une association nationale, mais pas que, une association également locale. Je reçois avec moi Richard Labrousse, militant ATTAC, et Thierry Patinet, président d'ATTAC-Oise. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Donc bonjour Brian.
Bienvenue chez nous. Donc on va faire un petit point assez rapide. Pourquoi vous êtes déjà venu, pourquoi vous êtes chez nous à la base. Vous nous avez contacté pour nous apporter votre soutien suite aux baisses de subventions du département de l'Oise.
Voilà, alors nous avons appris, donc Thierry, nous avons appris par la presse qu'il y avait un certain nombre d'associations d'éducation populaire, je pense à la Ligue de l'Enseignement, mais de radio locale, qui avaient une baisse de subventions qui, de notre point de vue, n'était pas justifiée. D'autant plus que d'autres associations ont vu leur subvention augmenter, mais globalement sur la base d'une baisse des dotations aux associations de la part du Conseil départemental. Par rapport à l'analyse que l'on fait, aussi bien au plan national qu'au plan départemental, on sait que c'est une des conséquences de la baisse des subventions de l'État par rapport au plan d'austérité qui a été mis en place. Lui-même, au prétexte de la réduction des dépenses publiques, lui-même au prétexte du remboursement de la dette publique, ce sont des dossiers sur lesquels on travaille, donc on est habitué à faire des mises en relation. Et donc notre premier souci, ça a été de prendre un contact de soutien et puis, comme dit le proverbe, l'expression, et plus si affinité, d'où on se retrouve ici aujourd'hui et merci Brian. Voilà, on développera.
Vous n'êtes pas là uniquement pour nous apporter votre soutien comme si on était amis ou qu'on se connaissait depuis longtemps, mais également pour avoir une analyse un peu politique de cette situation ou peut-être une analyse financière. On peut rappeler très rapidement comment ATTAC a été créée et pourquoi ATTAC a été créée.
Voilà. Alors, en tant que président, c'est moi qui interviens sur cet aspect. ATTAC s'est créée en 1998 suite à des mouvements sociaux. C'était la bande, je dirais, Bourdieu, monde diplomatique, etc., etc. Sur une analyse déjà au plan national et international que les crises ne sont pas fatales et que la crise financière, l'accumulation financière, donc on développera éventuellement s'il y a besoin, était à l'origine de beaucoup de crises et que donc en conséquence, une fois qu'on avait fait cette analyse-là, un monde meilleur était souhaitable et en plus possible. Alors à partir de là, il y a eu donc la naissance de cette association au plan national en France, qui a essaimé très rapidement, puisqu'à l'heure actuelle, il doit y avoir à peu près 56 attaques dans le monde, donc dans 56 pays différents. Mais également, il y a eu très vite la reconnaissance par des citoyens engagés, appartenant à des partis politiques ou pas, l'objectif n'était pas du tout celui-là, de développer une activité locale sur les conséquences justement de cette activité financière, de cette activité liée à la mondialisation capitaliste. Et donc il y a eu naissance, émergence de comités locaux. Et donc le comité local Oise s'est développé et est né dans la foulée en 1999. Et il se trouve que d'aventure, j'y ai personnellement adhéré et mes petits camarades ont fait que je suis devenu président, mais enfin peu importe quoi. Voilà. Alors ce que je tiens quand même à préciser, c'est que ATTAC, non pas que ce soit mal, au contraire, n'est ni un parti politique ni un syndicat, c'est vraiment un mouvement d'éducation populaire. Donc l'idée, c'est vraiment de faire que les gens se réapproprient la res publica, comme on dit, la chose publique, la citoyenneté au sens fort du terme, se réapproprient les questions politiques par le débat public, de façon à pouvoir intervenir sur la sphère sociale, la sphère économique, culturelle, etc., écologique, un grand aspect de notre travail, en toute connaissance de cause. Donc vraiment, éducation populaire, c'est à la fois apport de connaissances, il y a des sites remarquables qui sont faits, il n'y a pas que nous, mais on y contribue, et organisation de manifestations, débats citoyens. Et dans l'Oise, par exemple, et je terminerai là-dessus, on a beaucoup de collaborations avec les cinémas de quartier, les cinémas non commerciaux, on dira, où il y a beaucoup de présentations de films avec interventions communes, débats des réalisateurs et de nous-mêmes, pour à la fois parler du film, qui est l'objet d'un cinéma, mais en même temps pour le rattacher à des préoccupations sociales, économiques, comme je vous disais. Et ce faisant, on appelle les gens à réinvestir la sphère publique. Et actuellement, je crois qu'il y a pas mal de choses sur le feu. Mais enfin, on sera deux à en parler. Je développerai plus tard, ou Richard le développera.
Dans l'association ATTAC, dans l'acronyme, il y a taxation des transactions financières. C'était quoi ça au commencement, à la genèse de la création de l'association ?
Le symbole, même si c'est plus qu'un symbole, c'est le fait que James Tobin, la date, on pourra vérifier, donc je n'affirme pas, mais il me semble que c'est 71 ou 73, enfin 1971-1973, qui était un économiste américain, pas du tout ni gauchiste ni altermondialiste à l'époque, mais il avait fait ses travaux sérieux en tant qu'économiste, et il avait fait, à la fin, la proposition d'instaurer une taxe financière, la fameuse taxe Tobin, qui simplement sur tout ce qui était de la circulation financière non productive, c'est-à-dire qui ne servait strictement à rien, elle aurait été taxée à hauteur de 0,5%. Ça permettait à l'époque, donc dans les années, au début des années 70, de résoudre moult problèmes internationaux en liaison avec l'activité de l'ONU et de l'UNESCO en particulier, comme l'éradication de toutes les maladies par des campagnes de vaccination, l'éducation des jeunes filles en particulier. Les programmes de toutes les commissions de l'ONU manquent cruellement d'argent, et donc l'idée c'était de transférer une partie de cet argent absolument improductif et qui sert simplement à la spéculation financière, donc au service de quelques-uns, pour le reverser à quelque chose d'utile socialement, économiquement. Voilà. Donc c'était l'origine, c'était ça. Et c'est pour ça que le début de l'acronyme, c'est la taxation des transactions financières.
La spéculation, c'est le fait d'acheter une denrée, par exemple, on va parler du riz, mais finalement, en fait, le riz reste au même endroit. Juste, on crée un manque, un moment pour que le riz remonte, mais le produit final n'a pas bougé, il y a juste les acheteurs qui ont changé, c'est ça ?
Alors, en toute honnêteté, je suis professeur d'éducation physique et pas économiste. Donc, on se forme nous-mêmes et voilà. Donc, ce qui est dit n'a pas la volonté d'être pris au pied de la lettre comme voilà, c'est comme ça que l'on doit penser, mais c'est plutôt comme des éléments de réflexion qui amènent à réfléchir soi-même en disant ça nous semble pas forcément très clair ce qu'on nous raconte à la télé, pour faire bref. Et donc, peut-être qu'il y a d'autres sons de cloche, et dans ces cas-là, pourquoi est-ce que c'est ça qu'on nous dit, etc. Donc, sur les questions de spéculation, il y a ce qui s'est passé qui a conduit aux émeutes et puis à la Révolution française. C'est à un moment des gens qui stockent, ils créent la famine, les prix montent. Bon, c'est une première forme de spéculation. Mais là, maintenant, on est dans les spéculations qui ont amené aux émeutes de la faim il y a 3 ou 4 ans à peu près, participaient de ce processus. Mais le processus maintenant, c'est... je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est capable de le décrire en totalité, y compris ceux qui l'ont mis en place. Quelques éléments pour comprendre. Avant, quand on faisait nos études en économie, je dis avant, j'ai pas loin de 59 ans, donc il y a quelque temps, quand on faisait des études économiques, on nous apprenait que si on créait trop de monnaie, la fameuse planche à billets, ce qui s'est passé en Allemagne et qui a conduit, entre autres, à l'arrivée d'Hitler au pouvoir, ça provoquait en définitive, donc l'inflation, ça provoquait un dépérissement, une moindre valeur des richesses produites, des nourritures, tu parlais du riz, voilà. Et donc, il y avait un rapport à l'époque entre la monnaie créée et le prix des matières premières, voilà. On est arrivé où il y a eu des études, c'est Gaël Giraud, je crois, le nom, un économiste, et il n'a pas été démenti. Et c'est l'ordre de grandeur que je demande de retenir, ce n'est pas le chiffre en lui-même, c'est l'ordre de grandeur. C'est qu'actuellement, la masse monétaire en circulation correspond à 10 fois les richesses réellement produites. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun rapport entre les deux. Ce qui fait qu'on a vu la Banque Centrale Européenne a émis 1000 milliards de liquidités, c'est-à-dire de création monétaire. La création monétaire, c'est un peu compliqué. Ça peut être aussi bien... c'est compliqué à appréhender par les gens. C'est-à-dire, on va au café, on sort son billet ou ses pièces, c'est de la monnaie. Mais maintenant, la plupart de la monnaie, c'est des jeux d'écriture, voire même des clics d'ordinateur. Et donc, on est dans un stade où il y a une déconnexion complète, en gros, entre la monnaie circulante, la création monétaire et les richesses produites. Même si, et ça peut sembler paradoxal, quand la radio locale dans laquelle on est invité aujourd'hui a besoin de X milliers d'euros pour clôturer son budget, dans un lycée, on a besoin d'un prof de plus, donc ça coûte tant, pour construire un gymnase, enfin bref, il y a un rapport quand même toujours entre l'activité économique et l'argent, sauf que ce qu'il faut retenir, c'est cette déconnexion. Et donc, je ne sais pas si j'ai été un petit peu loin dans l'explication, mais autrement dit, la question de la spéculation, ce n'est plus uniquement le fait de retenir une marchandise en attendant qu'il y ait une demande très forte pour faire monter le prix. Il y a une autre illustration, je terminerai sur ce chiffre-là, c'est le trading à haute fréquence. Ça veut dire qu'en une seconde, le même produit a circulé dans le monde entre une trentaine d'ordinateurs, j'achète, je vends, sa valeur a changé de 0,0001 centime, mais multiplié par des milliards de fois, ça fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont empoché et d'autres qui ont perdu dans cette même seconde. Et l'idée qu'il faut retenir, c'est que ces transactions se font sans qu'il y ait, c'est un peu le point de départ de ce que tu disais avec le riz, la marchandise n'a pas bougé d'un iota. Et donc, c'est une activité spéculative qui crée des bulles, qui est hyper dangereuse et qui n'est absolument pas contrôlée. Donc, je reviens à l'origine de Attac, qui était l'idée d'un contrôle de ces circulations financières. Et quand on voit tous les scandales avec les banques, les Panama Papers, SwissLeaks, LuxLeaks, mais bon, c'est des dossiers d'actualité. Voilà. Et puis, il y a une autre circulation, c'est pour rester sur cette notion de spéculation, comme ça j'aurais fait le tour et puis on n'en reviendra pas. C'est qu'une des majorités des spéculateurs maintenant spéculent sur les monnaies nationales. Et donc, ça crée de la même manière des grossissements des dettes, des intérêts de la dette qui font que les États sont étranglés et qui a pour conséquence, que l'on voit à peu près partout dans le monde, les crises liées à l'austérité mise en place. Donc, il faudrait peut-être, mais là je ne l'ai pas préparé spécifiquement, et qu'on ait, si ça intéresse les auditeurs, qu'on ait un autre moment, où, y compris avec d'autres interviewés pour qu'il y ait du pluralisme, un vrai débat sur les questions financières. Voilà.
C'est vrai que cette question, on l'aborde assez régulièrement, le samedi notamment dans l'émission Polémique, c'est la voix off, où on reçoit régulièrement des gens du monde diplomatique, dont on peut avoir un peu une autre vision de ce système bancaire. Donc aujourd'hui, Attac, en local, quelles sont vos actions? Puisque j'imagine que vous n'allez pas aller taxer les transactions dans l'Oise.
Alors, les actions locales, elles sont de plusieurs ordres. Il y a des questions liées à l'actualité, je vais les prendre par rapport à l'actualité, parce que sinon on est un peu écartelé sur tellement de dossiers. En gros, les éléments qui devraient nous émouvoir, et je rappelle que dans le verbe émouvoir, il y a la même origine que émeute. C'est-à-dire l'émotion, à un moment donné, peut se transformer en action. Tout ce qui est lié à des injustices, à des choses qui ne vont pas, on marche sur la tête. on pourrait être tous les jours à faire des manifestations et des interventions dans tous les sens. Alors, je vais prendre simplement celles qui sont un peu plus d'actualité et éventuellement celles permanentes, mais qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Il y a, par exemple, notre intervention auprès des 693 maires de l'Oise concernant un dossier qui les concerne directement, c'est le TAFTA. Ou le TIPP selon l'acronyme anglais ou français. Sur cet aspect des choses, quand on intervient auprès des conseils municipaux, ils sont effarés par les informations qu'on peut leur apporter sur le fait que, dans l'état actuel des choses, si le TAFTA passait en l'état, les collectivités locales, donc une petite commune par exemple, se verraient, c'est un exemple grossissant mais qui est juste pour l'instant, se verraient par exemple dans l'obligation d'acheter le bœuf de telle multinationale, qu'elle soit américaine ou autre, peu importe, parce que ce serait dans le cadre des accords de libre-échange. Et si jamais la commune décidait de ne pas prendre ce bœuf parce que, alors malheureusement, on sait, malheureusement pour les bœufs eux-mêmes déjà, les pauvres animaux, mais y compris pour les consommateurs américains, le bœuf aux hormones, on connaît. On connaît également les dégâts qu'il peut faire au niveau de la santé. Ce n'est pas qu'un risque potentiel, c'est un vrai risque. Eh bien, la commune ne pourrait plus décider d'acheter à l'agriculteur ou à l'éleveur local parce que, dans le cadre de la concurrence libre et non faussée, la multinationale pourrait attaquer cette commune en lui signifiant que le sien est moins cher et donc globalement elle devait passer par ce marché-là. Et la commune pourrait toujours se défendre, mais au lieu de passer devant une justice indépendante comme ça se fait actuellement, les tribunaux en France ou dans d'autres pays, ou voire les tribunaux internationaux, le mécanisme actuel qui est retenu, c'est qu'on serait obligé, c'est les collectivités locales, serait obligé de passer devant un tribunal arbitral privé. Privé, c'est privé de transparence, privé de justice et d'équité, qui serait simplement composé de membres globalement faisant partie de ce petit monde oligarque et multinational. Donc on sait le résultat. Ce n'est pas quelque chose qui est en l'air, puisqu'on a deux exemples. C'est le gouvernement du Canada qui a été obligé de payer des pénalités très très fortes. Je n'ai plus le chiffre exact, je ne veux pas le dire, mais au niveau d'un État, c'est de plusieurs milliards de dollars canadiens, à une société américaine, puisque le Canada, sous pression de ses citoyens, avait refusé de continuer l'extension alors c'est pas le mot prélèvement, le mot exact je l'ai plus, mais enfin ceux qui suivent l'actualité me comprendront, concernant les gaz de schiste. Et donc la société a dit, mais nous, c'est une entrave à notre propre liberté d'exploitation. Et donc le gouvernement canadien a payé des pénalités. Le gouvernement allemand, donc Angela Merkel, a payé également des pénalités lorsqu'elle a décidé d'arrêter le programme nucléaire par rapport à des sociétés qui s'étaient engagées dans ce programme. Donc c'est pas quelque chose qui est en l'air, c'est quelque chose qui existe déjà. Bon voilà, par exemple pour le TAFTA, et en sachant qu'on sait qu'aujourd'hui il y a une négociation, c'est le 13e round, et beaucoup de gens, du point de vue des politiques de nos dirigeants, et je ne dis pas tous pourris, hein, je ne suis pas du tout dans ce discours, mais sont sur la base de la volonté d'accélérer pour que ce soit réglé le plus rapidement possible. Quel est l'intérêt ? Sincèrement, on est amené à se poser des questions. Concernant le gouvernement français, par exemple, les seuls arguments qui ont été donnés au moins une fois par Hollande, c'est que la libéralisation de ce marché permettrait potentiellement de créer 300 000 emplois, donc je suppose en France, et augmenterait le PIB de 0,2 ou 0,5%. La seule chose qu'il faut préciser, c'est d'ici à l'horizon 2025. Et l'autre chose, c'est qu'il y a eu plusieurs études qui contredisent complètement ces chiffres, il n'y a aucune certitude. La seule chose, c'est qu'on boufferait moins bien, on serait moins bien soigné, et par contre, les spéculateurs, eux, s'en mettraient encore plus dans les poches. Mais je pense que vous avez compris le lien entre les deux dossiers. Alors c'est le taffeta.
Les politiques ont besoin d'être informés comme ça, ils ne sont pas informés d'eux-mêmes, ce n'est pas leur job d'être informés sur toutes ces questions. Il faut vraiment que ce soit une association qui vienne leur donner des indications par rapport au taffeta, par exemple.
Là, on est sur un autre registre et c'est très compliqué en deux minutes de réagir. Mais j'invite les auditeurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que maintenant il a quand même eu une grande audience, à aller voir sur Internet. Il est disponible et accessible gratuitement. Le film de Serge Halimi, et j'ai oublié son comparse, donc qu'il m'excuse, Les Nouveaux Chiens de Garde. Donc je redis, Les Nouveaux Chiens de Garde, film de Serge Halimi, qui a été fait en 2011, je crois. Ça comprend bien comment les carnets d'adresse, ce que certains appellent l'oligarchie, qu'elle soit médiatique, politique, économique, financière, se repassent les plats, se réunissent régulièrement dans certains lieux pour en définitive décider ensemble de continuer à cultiver leur propre jardin. Les riches sont une classe sociale très organisée. Eux, ils savent que les classes sociales existent. Toute la question, c'est « mais alors, la gauche, c'est pareil que la droite ?» Eh bien, quand on regarde ce film, on est étonné de voir que tous les dirigeants actuels de ce que, au niveau d'attaque, on n'appelle plus de gauche, on dit le Parti Socialiste. Bon, ils ont le droit de faire ce choix. Mais ils participent à ces déjeuners et donc ils font partie de ce même microcosme. Et donc peut-être qu'ils ont une peinture un peu plus verte, un peu plus rose. Mais globalement, ils sont dans le même monde.
Et ils fréquentent les mêmes écoles.
Exactement. Sur cet aspect-là, s'il n'y a pas d'irruption de citoyens éclairés, on pense que les choses ne sont pas prêtes de changer.
Richard ?
Oui, je rebondis sur ce que dit Thierry. Quand il parlait d'attaque tout à l'heure, il parlait de se réapproprier la citoyenneté. Edoui Plenel a une très belle expression quand il parle de démocratie de basse intensité. On est dans une démocratie qui est de plus en plus une démocratie virtuelle. La question, par exemple, qui s'est posée en Grèce a été que la souveraineté de cet État a été complètement écrasée par la Troïka, par l'intervention de la Banque Centrale Européenne pour régler cette question de la dette grecque et d'imposer au peuple grec, qui avait voté contre cela, pour imposer au peuple grec des plans d'austérité qui ont malheureusement été repris par Tsipras. Se réapproprier la citoyenneté, c'est lutter contre à la fois ce qui s'est passé en Grèce et qui peut se produire actuellement en France du fait des actions du gouvernement qui se prévaut du terme de socialisme, mais qui n'en a plus que l'ombre de ce terme-là.
Donc aujourd'hui, c'est vraiment les politiques qui font la politique ou finalement c'est... Parce qu'on a tout le temps l'impression que c'est pas nous, genre en local c'est pas nous, c'est le gouvernement. Le gouvernement dit c'est pas nous, c'est l'Europe. Mais entre le pouvoir du peuple et l'Europe, il y a quand même une grande distance.
Alors je reviens sur, et en même temps c'est illustre, sur la question précédente, sur les nouveaux chiens de garde et l'oligarchie. Par rapport à l'intervention de Richard sur la Grèce, une autre illustration, c'est Mario Draghi, le président actuel de la BCE. Peu de gens savent qu'il était, il y a encore 3 ans, je crois, vice-président de la banque Goldman Sachs. Non seulement il est donc cette banque qui était dans les spéculateurs, enfin bref, les dérégulations dont on parlait tout à l'heure, mais l'élément le plus remarquable, c'est que sa fonction numéro un était de vérifier la fiabilité des comptes des États européens à qui Goldman Sachs prêtait de la monnaie, de l'argent. Et donc, il a prêté en toute connaissance de cause, mais il s'en fichait complètement. Et non seulement sa punition, c'est d'être maintenant président de la BCE. Donc on voit bien que cette notion d'oligarchie, elle est aussi au niveau international. Et donc c'est une manière de répondre à la question que tu viens de poser, puisque on a maintenant, c'est à peu près connu, il se trouve que pour éviter d'avoir à répondre de leurs actes et de leurs décisions politiques, les politiques faisant partie de cette oligarchie rentrent dans le jeu de la démocratie basse tension dont parlait Richard. Et la meilleure façon de se dédouaner, c'est de dire « oui, mais on ne peut pas puisque c'est l'Europe, c'est la Commission européenne ». Sauf que tous les textes, tous les pouvoirs de la Commission européenne ont été données, prêtées, organisées, arrangées par les différents politiques. La deuxième chose, un peu plus compliquée, c'est concernant les aspects financiers. Et là, l'exemple de la Grèce est un bon exemple. C'est-à-dire qu'on peut penser ce que l'on veut de comment Syriza est devenu, donc des positions tactiques et stratégiques de Tsipras, même s'il avait le couteau sous la gorge, là je pense que pour tout le monde c'est à peu près clair, c'est... À un moment donné, il a affirmé une position. Et là, les marchés financiers ont objectivement empêché, lorsqu'il y avait fermeture des liquidités, quand on voyait à la télévision ou aux informations que les Grecs n'avaient plus le droit que de tirer 50 euros par semaine, à un moment donné, le rapport à la monnaie redevient non plus un rapport virtuel dont je parlais tout à l'heure, 10 pour 1, mais un rapport réel qui fait que les gens peuvent continuer à vivre ou pas. Et donc là, il était objectivement écrasé. Toutes les alternatives n'ayant pas été envisagées à l'époque, il n'a pas pu s'en sortir. Et les alternatives qui peuvent exister, c'est des monnaies locales, mais au niveau national. C'est pas forcément, c'est un autre débat, sortir ou pas sortir de l'euro. Nous, on pense que c'est pas la bonne question, même si c'est fort possible qu'à terme, on sorte de l'euro. Mais on le pose pas comme un ultimatum, une question de départ. C'est plus la conséquence. Et l'élément essentiel, c'est que les marchés financiers, en définitive, dès l'instant où des lois diraient que tous les actifs de telle banque qui sont dans un paradis fiscal sont taxés à temps. Lorsqu'il y a eu une guerre, les États-Unis, ils ont gelé les avoirs de l'Iran. Ça peut être fait n'importe quand. Ce n'est qu'une question de décision politique.
Ils l'ont fait Cuba
également. Ce n'est qu'une question de décision politique. Toute la question, c'est que cette décision, elle est courageuse parce qu'effectivement, on s'oppose à un monde qui ne se laissera pas faire. Et lorsqu'on ne se laisse pas faire, il ne faut pas se faire d'illusions. Dans d'autres pays, je pense à la Russie, lorsque des journalistes ou des politiques montent trop au créneau pour essayer de rendre les choses transparentes, ça va jusqu'à la disparition physique. Donc, les meurtres existent. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est une question qui n'est pas simple. Mais l'élément essentiel, c'est dès l'instant où les gens sont informés que la question n'est plus éludable, alors il y a des transformations. Et si on venait à un dossier d'actualité, parce que je n'ai pas répondu complètement à la question sur l'ensemble des choses que l'on fait, mais bon, je pense qu'on pourra peut-être revenir. Exactement.
Il faudra une émission beaucoup plus longue.
Sur le dossier LuxLeaks, dont le procès s'ouvre aujourd'hui à Luxembourg, où il y a quand même trois ex-salariés de de l'entreprise FCW, alors exactement l'acronyme, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais enfin bon.
C'est un cabinet de conseil, en gros.
C'est un cabinet de conseil, merci. Et le journaliste français qui est relayé sont jugés aujourd'hui pour avoir dénoncé le scandale de ce qu'on appelle dorénavant LuxLeaks.
Enfin, ils sont jugés pour avoir...
Pas condamnés encore, soyons optimistes.
Pour l'instant, ils sont jugés pour avoir divulgué des documents confidentiels. Pas pour avoir dénoncé, mais voilà, c'est plus
alors,
pour avoir...
Alors là, il faut rentrer, c'est pareil, là, surtout dans des dossiers de justice, surtout au niveau international. Je ne suis pas compétent pour le faire. Je m'appuie simplement sur quelques fiches techniques qu'on a eues à TAC, à Mediapart ou dans d'autres revues. Ils ne sont pas condamnés. C'est l'ouverture du procès. Mais ce que je voulais dire, l'élément essentiel, c'est que l'ouverture de ce procès, c'était pour répondre à la question précédente, c'est que ça a fait un tel émoi le fait de savoir qu'il y avait un accord, les tax rulings, secrets, qui n'était pas illégal en soi avec la juridiction du Luxembourg, qui faisait que 342, qui ont fait que 342 multinationales européennes en particulier ne payaient pas d'impôts ni de taxes dans les différents pays où elles faisaient des profits, alors que dans le même temps, il y avait le chômage, il y a les politiques d'austérité. C'est un débat entre la légitimité et la légalité, mais on sait très bien que les lois sont toujours faites par les puissants et on peut modifier une loi et ça redevient légal en étant complètement différent de ce qu'était avant. Donc il faut qu'on ait toujours ce débat. En gros, on fait émerger la légitimité des questions massivement portées par les gens et dans ces cas-là, le contexte législatif, ce qui devient légal, peut changer. Et tout l'objet, et c'est pour ça que j'en parle là, c'est l'enjeu de ce procès LuxLeaks, c'est que justement les États européens qui sont complices de ce système LuxLeaks sont tous à avoir une position publique, voire François Hollande, il faut défendre les lanceurs d'alerte, c'est scandaleux qu'ils ne payent pas d'impôts, etc., etc. Autrement dit, on est en train de faire bouger les choses par justement cette éducation populaire. Alors, il n'y a pas que ATTAC, même si on appelle à manifester là-bas, il y a des militants d'ATTAC qui sont partis en quart aujourd'hui de France, mais d'autres organisations comme Oxfam, etc. Et donc, ça peut faire bouger les choses. Alors, quand on parlait, je redonne une illustration, je ne lâche pas mon idée de tout à l'heure sur le monde politico-médiatique, économique, les nouveaux chiens de garde. J'ai parlé de Mario Draghi, mais là on peut parler de quelqu'un d'autre, c'est Jean-Claude Juncker.
Ou Macron.
Alors Jean-Claude Juncker, c'était le premier ministre luxembourgeois qui a organisé les tax rulings. Et maintenant il est qui? Il est devenu quoi cet homme-là? Et il est devenu président du Conseil européen, de la Commission européenne, soyons précis. Sauf que dans son discours, maintenant, il condamne les tax rulings, il condamne tout ce qu'il a fait pendant... Mais je ne crois pas qu'il ait changé, je ne crois pas qu'il ait fumé un pétard. C'est tout simplement qu'il y a la pression populaire et le niveau de connaissance qui augmente, qui fait que ça change la donne. C'est ça l'éducation populaire. Et c'est pour ça que ça nous rend optimistes. Il y a tellement de raisons d'être pessimiste actuellement qu'il faut lutter, nuit debout, les manifestations contre la loi El Khomri en France, etc. Maintenant, on n'oublie jamais, et j'ai oublié de préciser ça dans ATTAC tout à l'heure, dans la présentation, penser global, ce qu'on vient de faire, mais agir local. Dans le agir local, on fait référence à un autre film qui nous semble très bien. C'est le film de... Alors, c'est Alex Doualon, le nom, je confonds un peu, mais Mélanie Laurent est plus connue en tant qu'actrice. Le film Demain. C'est un film qui montre qu'il y a des alternatives déjà mises en place dans plein d'endroits. Autrement dit, il faut à la fois être lucide et en même temps être optimiste. Et dans l'Oise, il y a de nombreuses associations qui travaillent déjà aux transitions. Je pense à Beauvais-Ville sur la transition... Ville en transition, pardon. Il y a plein d'organismes, d'associations qui sont déjà sur des transitions à la fois citoyennes, politiques, économiques, écologiques, agronomiques. Toute la question, c'est de les mutualiser, de les valoriser.
Oui, tu parlais de Macron, d'Emmanuel Macron. Ce qu'il y a de marrant à constater, marrant entre guillemets, c'est tout de même que le site d'Emmanuel Macron, le site En Marche, est hébergé par Claude Bébéard du groupe AXA, ou qui a été dirigeant du groupe AXA. Alors quand il dit qu'il n'est ni de droite ni de gauche, il est surtout du côté des patrons et du côté des capitalistes. Et d'ailleurs, quand cette chose a été dévoilée par Mediapart, puisque c'est le site Mediapart qui l'a mis en avant, je ne sais pas comment on appelle l'ours.
L'ours, ouais. Ça s'appelle Whois, en fait. C'est le nom, en fait, pour savoir où est hébergé le site internet.
Oui, donc cet endroit-là a été modifié.
C'est des données techniques.
Pour retirer l'adresse d'AXA et de Claude Bébéard. C'est quand même particulier. Parmi les activités d'ATTAC, il y a, et Thierry l'a abordé à l'instant, il y a l'opposition au projet de loi El Khomri. qui est quand même quelque chose qui mobilise quelques centaines de milliers de personnes actuellement, et qui est une régression sans précédent du droit du travail dans l'histoire de France. Je veux pas jouer les profs d'histoire, il y a déjà un prof de PS, je veux pas jouer les profs d'histoire, mais... L'origine du Code du travail, c'est la catastrophe de Courrières en 1906. Il y a 1090 mineurs qui sont tués au cours de cette catastrophe. Et ça entraîne, dans le Pas-de-Calais, une grève générale énorme qui va amener la création du premier ministère du travail en 1906 également,
ouais, en plus de ça,
sous Clémenceau.
Du coup, pour faire simple, les mineurs, il y a eu un éboulement.
Oui.
Les mineurs étaient dans la mine. Le patron a dit, il faut retravailler,
c'est
sinon
ça.
La mine va fermer.
Exactement.
Et finalement, des mineurs sont sortis. Alors en fait, ils ont un peu abandonné
Ils ont laissé mourir les ouvriers du fait qu'il fallait reprendre le travail. Et tout le sauvetage qui a été mis en place était un sauvetage du matériel. Et ce n'était pas un sauvetage des mineurs. Le Code du travail, il vient de là. Il a été créé en 1910, je crois.
Pour protéger les salariés.
Pour protéger les salariés. Ouais. Or, le Code du travail, El Macron, revient là-dessus, fait de l'entreprise le lieu principal, subordonne les salariés au bien-être et au développement de l'entreprise, et développe toute une série de régressions extrêmement graves qui ferait du code du travail, du monde du travail, un champ de ruines. Actuellement, il y a deux situations qui me reviennent en mémoire, se font alors qu'il y a encore un code du travail. Un salarié d'une entreprise qui est sous-traitante à Renault diffuse de sa boîte mail, à destination de ses collègues qui travaillent chez Renault, diffuse de sa boîte mail une publicité pour le film « Merci patron ». Il a sans doute été dénoncé par un des destinataires, et Renault est intervenu auprès de la direction de l'entreprise sous-traitante pour que ce salarié soit viré. Il faut imaginer ce que donnerait un monde du travail dans lequel le code du travail serait réduit au bien vouloir, au bon vouloir des patrons, des entrepreneurs, et au détriment des intérêts et de la défense des salariés. Le code du travail, au départ, c'est un code qui a été fait pour défendre les salariés.
Ça ne devient plus un droit inaliénable, quoi.
Ça ne devient plus un droit inaliénable. Ça devient un droit secondaire, un droit qui est subordonné à la bonne vie de l'entreprise. Quitte à ce qu'il y ait des sacrifices, après tout, le dicton populaire dit qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Les œufs, ça risque d'être
les ouvriers.
Les ouvriers et les salariés des entreprises.
On est un peu pressé par le temps, on fait un rapide point sur vos prochaines actions. Quoi de prévu?
Alors, les prochaines actions, on participe à beaucoup de choses. On co-intervient, on fait de la publicité pour pas mal d'actions dans l'Oise, que ce soit sur les projections du film Merci Patron. Donc, ils vont avoir lieu, on vient de le découvrir aujourd'hui,
ouais,
à Compiègne.
On fait une rediffusion, enfin une reprojection le 2 mai au Majestic à 20h avec Sylvain Laporte, journaliste chez Fakir. Donc on vous conseille de réserver, parce qu'on a dû refuser une centaine de personnes à la dernière projection.
Voilà, alors c'est un élément positif. À Clermont-de-Loise, où on l'a passé, c'est pareil. Le petit cinéma, c'est une des rares fois où il a fallu refuser du monde aussi. Donc le film repasse le 2 mai également, donc je ne veux pas faire de la contre-publicité pour Compiègne à Beauvais, avec François Ruffin à l'ASCA à 20h30. Le 3 mai à la Faïencerie à 20h30, avec pareil une personne de Fakir, mais là, elle n'était pas encore nommée à cette époque-là.
Il y a Tourotte également. La salle Saint-Gobain de Tourotte.
Voilà.
Voilà.
Donc, il suffit d'aller voir sur le site de Fakir, en général, les informations y figurent. Il y a également participation à l'émergence de Nuit Debout sur Beauvais. Et puis, il y a des dossiers plus permanents. L'étude de l'eau qui doit être un bien commun. Donc non seulement service public, mais bien commun. Donc c'est un travail avec les municipalités pour plutôt repasser en régie, étudier le coût de l'eau. Donc il y a des copains qui travaillent sur cette question-là. Donc c'est quelque chose de très local. Il y a le travail permanent, toujours sur les questions de financières, le point de départ, la TTF, taxe pour la taxation financière, taxation des transactions financières, pardon. C'est la question de la dette. Il y a un copain d'attaque qui s'est spécialisé sur ces questions-là et qui a fait un site qu'on met à disposition de tout le monde. Ça permet vraiment de mieux comprendre, puisqu'on peut y aller, comme on dit, en 2 minutes, 10 minutes ou 1 heure. C'est une arborescence. Si on a le temps, on développe. Ce site s'appelle RASDETTE. RASDETTE en un seul mot.
On mettra l'adresse sur le Facebook de la radio.
Voilà. Comme on sait qu'on est pressé, on n'a pas prévu exactement de faire la liste de tout ce à quoi on participe. Et puis, on participera bien évidemment aux manifestations de jeudi, en espérant qu'il y ait convergence entre le mouvement syndical et le mouvement associatif et le mouvement jeune. Parce que c'est vraiment porteur d'espoir, les gens qui, même si parfois ça peut sembler dérisoire, même si parfois on n'est pas forcément d'accord sur tout, le fait que des gens ensemble se reparlent et envisagent de se cultiver pour dire mais pourquoi on nous présente les choses de cette manière-là et envisagent un monde meilleur. En soi, tout le monde devrait être content. Voilà. Alors, en gros, on reprend rendez-vous si vous le voulez bien, mais on ne peut pas développer plus là.
On vous donne rendez-vous en tout cas jeudi 28 avril pour cette manifestation. Il y aura un départ à Compiègne, il me semble que c'est à 10h au cours Guimer. Sinon, toutes les infos qu'on a pu évoquer au cours de cette émission, vous les retrouverez sur le Facebook de la radio. Pareil, si vous avez pris l'émission en cours de route, elle sera réécoutable sur le www.graphite.net. Richard Labrousse et Thierry Patinet, merci beaucoup. À très bientôt, on espère.
Merci à toi.
Merci, Brian.
Et on vous rappelle que si vous voulez avoir une opinion un peu différente de ce que vous pouvez entendre dans les masses médias, rendez-vous le samedi à 15h pour l'émission Polémix et la voix off, avec souvent des invités du monde diplomatique. Allez, bon après-midi. À très bientôt sur notre antenne.